Mon choix ce matin de partager avec vous ce texte fait suite à un échange que nous avons eu dans un petit groupe qui s'est formé au sein de l'amitié judéo-chrétienne dont j'ai parlé dimanche dernier et qui se retrouve régulièrement pour échanger sur ses lectures bibliques. Merci à mon collègue et ami Gérard Manon de m'avoir autorisé à m'inspirer de ses recherches si denses mais qu'il sait toujours rendre si attrayante et même parfois si drôle. Ici, tout semblerait tourner plus ou moins autour d'une histoire de couteau. Lire un texte, en effet, en compagnie de Gérard, c'est découvrir la complexité, mais la richesse de cette langue du Premier Testament qu'est l'hébreu. Alors, je ne suis pas du tout qualifié et je ne vais pas vous donner une leçon. Je vais partager avec vous quelques éléments. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent cette langue, sachez qu'en plus, je suis complètement incapable de la prononcer correctement, donc il se peut forcément qu'il y ait des erreurs. Je m'en excuse auprès des spécialistes. Eh bien, en avant. En avant, ça pourrait être le mot d'ordre d'Abraham, à qui Dieu adresse l'ordre primordial « Va vers toi ». Va pour toi. Le premier patriarche est premier en ceci qu'il s'arrache, qu'il quitte sa terre, mère. Il part de son lieu de naissance. Et par ce départ, il devient le premier d'une lignée. Abraham est un pionnier. Ce départ est un geste qui préfigure sans doute la nécessité du couteau, puisqu'il implique tout à la fois de couper le cordon ombilical du côté maternel, le lieu de la naissance, et du côté paternel, de couper des liens qui étaient tissés et de fidélité envers un culte des ancêtres. Abraham part les mains vides. Enfin, il en perd quand même le couteau. La version grecque de la Septante utilise de nombreux verbes qui dénotent un commencement absolu, une capacité à ouvrir la route, à défricher, à aller de l'avant avec l'autorité de celui qui sait où il va. Abraham se rend vers le mont Moria en partant tôt le matin. Alors, cette précision n'échappe pas dans les commentaires des Midrash comme un signe de foi. Abraham est en même temps celui qui commande et celui à qui l'on commande. Isaac le comprend si bien qu'il le suit sans état d'âme et en silence. Très peu de mots sont échangés entre eux. Et pourquoi d'ailleurs se rendre sur ce mont Moria? Par le sacrifice qu'il va devoir accomplir, si tant est qu'il le croit ou qu'il ne feigne pas de le croire, il s'agit quand même de son fils, il va s'agir pour Abraham, de fonder. Fonder d'abord une lignée avec, paradoxalement, couper ses liens maternels, et ceci devrait donner à une lignée spirituelle. Le sacrifice vaut rapprochement. C'est le sens du mot hébreu « korban », rapprochement avec Dieu. Et de manière un peu plus prosaïque, il s'agit aussi de construire un autel. Le texte ne manque pas de rappels concrets aux éléments indispensables, le feu, le bois, la bête à immoler. Mais enfin, il ne faut pas perdre de vue aussi que dans cette tradition juive qui est celle des premiers textes du Premier Testament, le mont Moria sera le lieu où le temple sera construit. Abraham fait donc œuvre de fondateur et de bâtisseur. Et dans cette œuvre, le sang joue un rôle lors de cette construction, en oubliant le côté sanguinaire, mais en le montrant comme un moyen de délimiter le lieu du sacrifice, comme un peu les animaux qui marquent leur territoire. On doit noter que ce qui reste à l'état implicite dans l'épisode biblique, c'est la nature de l'objet du sacrifice, puisque Isaac s'étonne à haute voix de l'absence de l'agneau. Cette hésitation quant à la nature de cette victime expiatoire nous permet d'ouvrir une double piste. La première concerne la cause de cette indécision et la seconde est susceptible, de nous renseigner sur une autre fonction de ce sacrifice d'Isaac. La première piste nous ramène au commandement « Va vers l'endroit que je te montrerai ». Le mont Moriah n'est pas nommé d'emblée comme la destination évidente. Or, fait notable, il est question de nombreuses fois de voir partout dans ce texte, ce qui semble être un trait stylistique caractéristique du texte biblique, qui fait dépendre la cohésion d'un épisode de deux ou trois racines lexicales que l'on retrouve comme ça, répétées à l'envi. Ici, il s'agirait du RH, qui est comme un ciment narratif que l'on retrouve tout le long de l'écriture hébraïque. Cette racine se retrouve aussi dans le mot exégète. Apprendre dans toute la richesse de cette étymologie, celui qui interprète, certes, mais justement parce qu'il est d'abord celui qui montre le chemin, qui associe les mots entre eux pour découvrir des significations nouvelles. Il est bien question d'interprétation chez Abraham. Dieu lui-même, dans son commandement, apparaît comme un Dieu qui annonce, un peu comme la Pythie à Delphes qui délivre des oracles. Le terme central du récit, Olra, est équivoque. Consiste-t-il simplement en un verbe de mouvement, montrer, monter, ou un terme rituel, holocauste? Abraham semble trancher, revoilà le couteau, c'est le cas de le dire, plutôt dans le sens rituel, mais il se met quand même en marche et il monte. En second lieu, et dans la suite des remarques précédentes, on pourra insister sur le caractère un petit peu étrange, équivoque de cet oracle commandement qui peut largement expliquer qu'Abraham se décide à sacrifier son fils. Pareille obscurité du commandement conduit facilement au contresens. Ce qui serait cause alors, c'est la nature essentiellement équivoque de la parole divine, fût-elle biblique. Ce qui, bien sûr, ne devrait pas nous empêcher de nous poser des questions, de nous interroger sur d'autres causes possibles. Parce que si Abraham a mal entendu, c'est qu'il voulait mal entendre. Et une lecture souvent faite tournée vers la psychanalyse de ce texte n'a aucun mal à identifier ici un des lapsus qui en disent long sur les intentions inconscientes. C'est à ce stade, peut-être, qu'il faut réintégrer notre réflexion dans un contexte plus large. Et une technique encore utilisée par les Midrash, qui a fait ses preuves, consiste à tenir compte des enchaînements des épisodes qui n'entretiennent entre eux apparemment aucun lien, afin d'en comprendre des associations latentes. Alors, on remarquera que ce récit, appelé la ligature d'Isaac, est précédé d'un épisode curieux où Abraham et Sarah sont en visite chez Abimélec et ça donne à une étrange composition, recomposition des liens familiaux, puisque Abraham fait passer Sarah pour sa sœur. De peur que le roi Abimélec ne lui enlève sa ravissante épouse, et que pour pouvoir l'enlever en restant digne, il le tue, lui, le mari. Bref, le motif qui apparaît ici n'est rien de moins à un moment donné quand même que celui de l'inceste, et fantasmatiquement, Abraham décide de son propre chef que sa femme est sa sœur. Et si donc Abraham entend tuer son fils, c'est parce qu'il entend dans l'ordre divin, c'est qu'il se fantasme, se représente comme père tout-puissant, qui n'entend pas laisser la place à son fils, qu'il entend bien décider à sa place et le faire décéder à sa place. Abraham, dans la tradition des commentateurs de la Bible, est compris comme le père de la multitude, c'est l'objet de la bénédiction à la fin. Il ne serait donc autre que figure du Père Tout-Puissant, hégémonique, archi-hégémonique, double en quelque sorte de cet Abimélec dont il vient d'être question et dont le nom justement signifie « mon père le roi ». Tout un programme donc. Pervers, jouons sur les mots, donc si tant est que la perversion ne soit rien d'autre que la pire version du père. Père, aux allures incestueuses, père littéralement inceste tueur aussi, qui plutôt que de laisser Isaac lui-même se détacher de sa famille, trancher par lui-même ce nœud, qu'on appelle nœud d'Ipien, plutôt que de laisser se dérouler le processus, symboliquement, va en quelque sorte accélérer les choses. L'imaginaire, le réel, tranché, couteau à la main, reste une question. L'issue du sacrifice avorté montre et donne des explications à tout ça. L'animal qui va être sacrifié en lieu et place du fils est un bélier qui symboliquement figure le père. Donc à la fin du sacrifice, le père prend la place du fils. Vous avez dit qu'il prenait une claque, le père. Le bélier s'est pris les cornes, encore un symbole masculin, dans le buisson et file de l'imaginaire. Abraham s'est fait complètement dépasser par le rituel auquel il ne sera finalement pas soumis. Le père, symboliquement, a bel et bien été tué. Et revenons alors maintenant sur ce fameux couteau et ce tranchant qui arrive. Pourquoi cet instrument ? Alors d'abord, il est nommé en hébreu Makrelet, ce qui ne laisse pas d'étonner parce que on aurait attendu dans la part de la place du couteau pour le sacrifice le terme sakin, qui était plus courant à l'époque. Et ce nom, justement, cette transformation de dénomination, passe de couteau à dévoreuse, qui devient féminin. Il ne s'agit pas de trancher net, il s'agit en fait de découper lentement des tranches fines. C'est le terme utilisé pour désigner manger dans le sens du repas du sacrifice. Alors ce motif rentre encore en résonance avec des remarques d'ordre psychanalytique relatives au meurtre du fils. Il s'agit réellement d'incorporer sa propre descendance. Inceste culinaire s'il en est, et de plus cannibale à la base. Le couteau devient finalement un instrument politique. Il évoque la mâchoire du loup, le loup aux dents longues qui rôde. Et si on se rapproche de la culture grecque, dont on ne peut nier l'influence sur l'écriture de certaines parties de la Bible, le loup se retrouve dans ce sentiment confus qui peut conduire à la guerre civile, où les citoyens s'entretuent sans problème. On trouve de nombreux épisodes dans les fables d'Ésope qui nous sont parvenus après par La Fontaine. Tant de personnages de loups et tout à côté, tant de petits comme des ânes qui interrogent et mettent à mal le pouvoir. Il est question d'un âne aussi dans le texte. C'est bien son âne qu'Abraham apprête de bon matin pour se rendre vers le mont Moria, c'est-à-dire le lieu politique et rituel où le coutelas, dévoreur aurait dû consommer Isaac. Loin que l'acte de battre l'âne soit signe de diminution des passions matérielles, on serait plutôt enclin à y voir une collusion entre le père tout-puissant de la horde, l'hégémonique Abraham et la tyrannie politique. Ainsi, ce qui peut apparaître à prime abord comme la condamnation sans appel côté biblique du sacrifice païen ou idolâtre peut recevoir une lecture plus politique. Le culte centralisé, temple de Jérusalem, doit servir de nombril du monde juif, de centre attracteur de forces centripètes qui ramènent vers le centre, alors que la guerre civile, elle, déchaîne des forces qui éloignent et qui sont centrifuges. Bref, voilà destiné à prendre en charge la structuration de l'ordre politique autant que rituel. Ce ne sont pas, et encore moins, les querelles contemporaines autour de l'esplanade du Temple et du statut géopolitique et diplomatique de Jérusalem qui viendront invalider ces vues. Le récit de la ligature ménagerait de l'espace pour une lecture selon le modèle de cette allégorie politique. À côté d'Ésope, de ses loups, de son âne, à côté de La Fontaine, de ses singes et de son lion, voici le narrateur biblique mettant en scène l'âne, le couteau et le bélier. Ce dernier figure le patriarche à la blanche toison regardant son troupeau, animal lié, ligaturé, domestiqué en quelque sorte, qui n'a plus rien d'inquiétant, plus rien du loup, père rangé qui se range du côté de la paix civile. La ligature d'Isaac comme fondement d'un lieu propre à la rencontre avec Dieu, dégagé des emprises publiques et politiques. Rendez à César ce qui est à César. Abraham fait donc bien figure de guide, de fondateur, patriarche autrefois inquiétant, mais revenu à la raison, est susceptible désormais de servir de modèle à ses ascendants et ses descendants. On aura reçu confirmation de cette intuition première. Ni Abraham, ni quelque autre personnage que ce soit, ne devrait être réduit à quelques attributs, tant sont grandes la tension et l'ambiguïté qui l'habitent. Voilà. Arrivé au terme de mes réflexions partagées, essaie une fois de plus de ne pas réduire un texte à ce que je croyais déjà en savoir, mais ouvrir des pistes, explorer des possibles, effrayer des voies inédites. Se laisser une fois de plus porter par l'écriture vivante et active. La Genèse est ce livre de la rencontre avec ce Dieu qui nous conduit pour nous chrétiens, à la rencontre avec le Christ et l'amour infini, mais en même temps nous laisse toute notre liberté sur ce chemin. Alors, que nous soyons pères ou que nous soyons fils, nous savons tous maintenant que nous n'avons pas de sacrifice à apporter. Nous devons simplement nous donner nous-mêmes, nous laisser approcher par lui. Il nous accompagne alors sur les chemins que nous avons choisis librement. Amen.